difficultés financières, problèmes d'accès à la nourriture, troubles psychologiques, mais aussi inconvénients de la formation en ligne ou freins à la réalisation de stages, le confinement a exacerbé les situations de précarité étudiante et mis en danger la réussite de toute une génération. À la FERTES, Association pour la formation, l'expérimentation et la recherche en travail éducatif et social, de étudiantes et étudiants, Alex Pontini et Marie Zimura, ont mené une enquête statistique pour mesurer l'impact du confinement sur la vie étudiante. Et les résultats sont inquiétants. Entre autres, 41,5% des répondantes et répondants déclarent avoir des difficultés pour payer la nourriture, 39% pour payer leur loyer. 80% affirment que le confinement a un impact négatif sur leur santé et leur morale. Cette précarité et ces difficultés au sein de la formation sociale devient paradoxale si l'on considère la contradiction qu'il y a à étudier le travail social à la maison, ou le paradoxe à former des étudiantes et étudiants précaires pour accompagner des personnes en situation de précarité. Le 9 mars, nous nous sommes rendus sur le site de la FERTES à Avion. Nous y avons rencontré Clarisse, Valentine et Yacine, toutes trois en formation de travail social, Pierre Duguet, directeur de la FERTES d'Avion, et Alex Pontini qui a co-réalisé cette enquête.
C'est une étude qui a été menée dans le cadre de la représentation OCA, au conseil d'administration de l'école, et au CVS, le conseil de vie sociale, sur le site d'Avion. Et donc, en fait, on a constaté que de plus en plus autour de nous, on entendait parler d'enjeux autour de la précarité étudiante, des difficultés qui étaient liées à la fois au logement, au numérique, avec les cours en distanciel, à la question de la nourriture, enfin, plein de questions qu'on entendait dans la presse, dans les médias. Et on avait envie de savoir si ça nous concernait aussi ou si on était un peu exempt de ce genre de questions. Et donc on a eu envie de constater par nous-mêmes de ce qui se passait. Sur la question de la précarité économique, effectivement, on a énormément de travailleurs sociaux en formation qui sont impactés. Il y a 52,8% des répondants qui déclarent avoir rencontré des difficultés économiques au début de l'année. Et en termes de nourriture, effectivement, dans les questions libres qu'on a laissées à la fin du questionnaire, on nous demande à plusieurs reprises l'organisation d'un marché solidaire ou de bourse pour pouvoir se nourrir. Donc c'est une question qui revient. Ce n'est pas la question qui revient le plus, mais elle revient effectivement pas mal.
À part cette question de l'accès tout simplement à la nourriture, qu'est-ce qui t'a semblé le plus marquant dans les statistiques que vous avez pu établir?
Alors, nous, on a interrogé les travailleurs sociaux en formation sur cinq questions. La formation en ligne, la recherche de stage, la précarité, les informations qu'on arrive à récolter à propos des aides financières auxquelles on peut avoir droit, et les conséquences du confinement sur le moral et la santé. Donc, ce qui nous a beaucoup alerté, c'est la question des recherches de stage. Beaucoup de travailleurs sociaux en formation qui ont des difficultés pour trouver des stages parce que les foyers, les structures du social sont assez renfermées en ce moment à cause des risques sanitaires, et aussi les conséquences du confinement sur le moral et la santé, où là on a vu qu'il y avait une hausse très significative de l'isolement, des pensées noires, des étudiants et des étudiantes qui ne trouvaient plus la motivation, qui avaient plus de mal à se lever pour assister aux visios. Donc ouais, c'est plutôt sur la question de l'isolement qu'on a remarqué que c'était très difficile. Et aussi au niveau de la question de l'accès au numérique, où il y a à peu près la moitié des répondants de l'enquête qui déclarent avoir des difficultés pour pouvoir accéder au matériel et à la connexion Internet.
Clarisse Magnier, j'ai 25 ans. Je suis en monitrice éducatrice deuxième année à l'ESTS d'Avion. L'année dernière, on a eu beaucoup d'abandon à cause d'un manque d'argent, ce que je trouve assez intolérable d'arrêter ses études parce qu'on n'a pas d'argent. Après, personnellement, ça m'a touchée aussi parce que j'ai travaillé pendant plus de 2 ans avant de trouver cette formation. Et je me suis retrouvée à plus vraiment travailler parce que j'avais plus le temps. Enfin, il y avait les cours, il y avait les stages, les bourses qui ne sont pas énormes. Il n'y a pas vraiment d'aide à côté. Il y avait un manque d'informations aussi. L'année dernière, on avait une secrétaire qui n'était pas au top. Donc, elle m'a dit que je ne pouvais pas cumuler Pôle emploi plus les bourses. Donc, je me suis retrouvée avec 200 euros pour vivre. Bon, je vivais chez mon père, mais bon, il m'aidait pas. Je paye mes factures tout seul. Je me débrouille tout seul. Je mange toute seule. Donc, j'étais passée à un repas par jour. Et avec le Covid, ça n'a pas arrangé les choses parce que cet été, on n'a pas pu travailler. On s'est renfermés sur nous-mêmes.
comment la situation a pu s'aggraver justement avec le Covid et le confinement.
Ben, au début, on pouvait trouver déjà les jobs étudiants. Les stages aussi, déjà trouver un stage rémunéré, c'est très dur. Donc là, c'était quasi impossible avec le Covid, parce que du coup, la bonne excuse maintenant, c'était on ne peut pas prendre de stagiaire parce qu'il y a le Covid. Moi, je me suis retrouvée à ne pas trouver de job d'été parce qu'ils ne prenaient pas. J'ai fait quand même un mois à nettoyer des camions pour désinfecter pour le Covid. J'ai trouvé que ça, et pourtant j'ai cherché. Bon, après, j'ai fait tout. Hein. J'ai été auxiliaire de vie, j'ai travaillé à l'usine. J'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour de tout ça, quoi. Puis le fait qu'on se voyait plus entre nous, on était quand même tout seul chez nous. Il y a une mauvaise organisation au niveau des cours aussi. On nous a lâché des copier-coller en fait de cours en nous disant vous rendez ça et c'est tout. On n'avait plus de visio, on n'avait plus rien. Il n'y avait plus de lien avec la formation. On est arrivé en septembre. J'ai l'impression de refaire ma rentrée, de recommencer au début en fait. Et ça a été compliqué de se remobiliser quand même, de se remettre dedans.
Et aujourd'hui, concernant la précarité, c'est une situation qui perdure pour toi ou que tu as pu résoudre en partie ou totalement?
Non, c'est pire que l'année dernière parce que l'année dernière, j'avais 297€ de bourse. Mes ressources n'ont pas changé, rien n'a changé. Et maintenant, j'ai plus que 103€ de bourse tous les mois. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'était compliqué en début d'année. Donc, j'ai emménagé avec mon copain qui, lui, travaille. Donc, c'est lui qui paye tout. Et moi, je m'accroche à lui, entre guillemets. Bon, après, j'essaye de m'en sortir. Je vais à droite à gauche, je prends des sous dans mes comptes, dans mes livrets, je revends des trucs sur Vinted. J'ai trouvé un contrat de travail avec mon stage où j'ai fait bonne impression, donc il me garde. Je travaille quelques jours par semaine. Bon, c'est déjà ça en plus, quoi.
Alors, je m'appelle Valentine, j'ai 23 ans et je suis en formation de moniteur éducateur en deuxième année. Et auparavant, je travaillais chez McDo. La première année, quand je suis rentrée en formation, j'avais les bourses. Donc, j'avais 110€ de bourse. Et là, cette année, j'ai dû prendre mon logement. Donc, avec 110€ de bourse, c'était pas possible. Même en vivant chez mes parents, c'était pas possible. Et ensuite, j'ai dû retravailler 6 mois pour toucher la REF. C'est l'allocation retour à l'emploi formation pour avoir accès à plus de revenus, quoi. Et parce que comme j'avais démissionné, j'avais pas le droit du tout aux aides de Pôle emploi. Du coup, j'ai retravaillé et j'ai pu obtenir la REF et plus mes 110€ de bourse. Mais bon, maintenant j'ai mon logement, donc c'est toujours assez compliqué, quoi. Mais j'ai fait plusieurs fois appel à l'aide alimentaire sur avion grâce à des connaissances que j'ai pu avoir qui étaient là pour les étudiants, pour leur apporter des denrées alimentaires, quoi. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis toute seule, donc il n'y a personne qui m'aide. Si je m'en sors pas, c'est soit je m'en sors, soit rien du tout.
Est-ce que c'est une situation qui dépend ou pas du confinement?
On va dire qu'en fait, moi, avant le confinement, j'avais toujours... financièrement, c'était un peu galère. Après, pendant le confinement, j'ai pu avoir des opportunités de remplacement dans des structures grâce à la formation que je suis en train de faire. Donc, le confinement, ça a été bénéfique pour trouver du travail, mais au niveau des bourses et de la précarité étudiante, ça n'a rien changé, quoi. Ça m'a plus enlevé des aides maintenant, vu que j'ai travaillé, que m'en donner, quoi. On pousse les gens à faire des études, c'est vrai, mais le problème, c'est que c'est pas à la portée de tout le monde parce que financièrement, c'est compliqué. Moi, l'année dernière, j'ai vu beaucoup de mes camarades partir de la formation parce que justement, financièrement, c'était pas possible. Donc l'année dernière, c'est vrai pour ma part, j'ai fait des manifestations parce que c'est vrai que ça me tient à cœur. Parfois, moi, je suis en formation parce que j'ai un projet et parce que ça me tient à cœur. Mais financièrement, des fois, on peut pas se le permettre parce que c'est trop compliqué. Alors, je trouve que l'aspect financier, ça impacte beaucoup sur les choix et sur notre avenir. Je trouve pas ça normal qu'on doive penser à l'argent avant de penser à notre avenir. Des fois, ça met des bâtons dans les roues et c'est pas bien parce que... Parfois, on fait un peu une croix sur nos rêves parce qu'il y a l'aspect financier, quoi. Je trouve ça un peu nul.
Je m'appelle Yacine, j'habite à Rouvroy et je suis en deuxième année de formation d'éducateur spécialisé à la Ferté d'Avion. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir le droit à des droits Pôle emploi qui me permettent de vivre, de payer le loyer et j'ai un petit complément de bourse. Donc jusqu'à novembre pour l'instant j'ai des ressources clairement, mais on peut voir en promo que certains sont clairement en galère. En dehors de ça, j'ai assisté aussi au départ de mon binôme de formation, on va dire un camarade proche de formation clairement, comment expliquer ça, c'était la galère entre la formation, il travaillait un peu le soir, il était Uber Eats le soir, donc ses stages, quand la charge de travail, la charge de travail demandée dans le cadre de la formation, elle est trop grande, et ben, il a clairement arrêté. Hein. Clairement, au début, il s'est démotivé, et après, voilà, il a trouvé un CDD, et il s'est dit qu'il allait faire un report de formation, mais là, il est installé dans un travail, et il faut qu'il vive, comme il me disait, il faut que je vive, donc il a clairement arrêté la formation. Nos stages se sont arrêtés, donc pour certains, la gratification du stage, elle s'est arrêtée aussi. Donc ça a été un peu plus compliqué pendant le confinement, parce qu'il faut aussi vivre, il faut aussi continuer de vivre, il faut continuer de manger, il faut continuer de faire plein de choses. Certains aussi vivent des centres de loisirs, ils mettent un peu d'argent de côté grâce aux centres de loisirs, grâce aux colonies, aux séjours de vacances. Là, il n'y avait plus rien, et donc pour certains, ça a été compliqué. On a senti de toute façon toute la formation fragilisée aussi bien par la situation. Pour certains, le fait qu'ils étaient super isolés, hein, clairement certains ont été super isolés pendant le confinement. Et toute l'entraide qu'il y avait, la petite solidarité entre étudiants, elle s'est perdue aussi. On ne se voyait plus, donc c'était beaucoup plus compliqué.
Un des points essentiels, c'est la santé mentale des étudiantes et étudiants. Donc, tu en as un petit peu parlé. Je ne sais pas si tu veux développer un peu plus cette question-là. Et aussi, qu'est-ce qui peut être proposé en termes d'accompagnement, notamment ?
Alors oui, effectivement, au niveau de la santé mentale, on rencontre des difficultés. Elles ne sont pas forcément de l'ordre d'étudiants et d'étudiantes au bord du suicide ou qui ont des difficultés psychiatriques ou psychologiques extrêmement intenses. Mais d'une situation qui ne s'arrête jamais et dont on ne voit pas le bout, qui a des conséquences oui, sur des épisodes dépressifs ou de grosses baisses de motivation. Et de ce côté, on s'est un petit peu renseigné sur ce qu'on pourrait faire pour accompagner. L'idée étant de ne pas sortir du droit commun et d'aller voir du côté de ce qui est envisageable avec des structures qui existent déjà, d'aiguiller les étudiants dans des dispositifs auxquels ils pourraient avoir accès. Le problème, c'est que ces dispositifs, aujourd'hui, ils sont complètement engorgés. Donc, pour avoir un rendez-vous au BAPU, le Bureau d'aide psychologique universitaire qui se situe à Lille, donc déjà, il faut y aller, parce qu'il n'y en a pas dans le Pas-de-Calais. Et donc, il y a la question du transport. Mais en plus de ça, il y a la question du temps d'attente. Donc, moi, j'ai appelé pour orienter quelqu'un. C'était 4 mois et demi d'attente. Donc, on m'a demandé de dire à la personne de faire une demande sur un site en ligne pour avoir une consultation psy en visio. Là, c'est pareil, c'est une liste d'attente qui attend pour déboucher sur la liste d'attente. Donc, c'est complètement pris d'assaut parce que forcément, les conséquences, elles sont pour un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes de tous les domaines. Et donc, ouais, le CROUS est dépassé, le secteur privé est dépassé. Les chèques santé qui ont été mis en place par le gouvernement, on n'a pas beaucoup plus d'informations et la communication n'est pas faite énormément. Il faut quand même passer par un médecin généraliste pour ensuite être aiguillé vers un psy qui sûrement sera aussi pris d'assaut. Donc c'est compliqué, on ne trouve pas vraiment les solutions pour répondre à la demande.
Moi déjà, je suis une grande stressée de base. J'ai été en études d'infirmière pendant un an et en fait ça ne me plaisait pas, mais je me mettais dans le déni. De me dire, j'ai dit que je faisais ça, je vais faire ça, je vais aller jusqu'au bout. Et je me suis fait des crises d'angoisse incroyables où je ne bougeais plus de mon lit, tout ça. Et c'est la formation moniteur éducateur qui m'avait sauvée. Et ça m'a remis dedans avec le Covid, parce que être tout seul chez soi, attendre, se dire, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à faire mes dossiers? Est-ce que je comprends ce qu'on me dit par visio? Parce que s'il n'y a pas d'interaction, si j'ai une question, je fais comment? Je peux pas, on lève la main, mais pas forcément. Les visios, ça m'a... C'est pas top du tout. Ouais, l'isolement aussi, ouais. Il y a eu un moment, je me rappelle, j'ai appelé une de mes amies qui est en ES, et je lui ai dit, j'en peux plus. Elle me dit, t'en peux plus de quoi? Je dis, j'en peux plus, on est tout seul. Je dis, je vois plus personne. Je sais même plus ce que c'est un contact social. Je dis, il faut faire quelque chose, là. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je dis, je sais pas, mais il faudrait qu'on fasse du présentiel. Et heureusement, il y a eu du présentiel juste le mois d'après, donc ça m'a fait du bien de revoir un peu du monde.
Pendant le confinement, c'est vrai qu'on l'a énormément ressenti. Là on retourne en formation et on est super content parce que c'est vrai que quand on est dans son appartement, on travaille, même trouver la motivation de travail, c'est super compliqué devant son ordinateur. Et je pense que déjà, le fait d'avoir été confiné, on a aussi perdu beaucoup de motivation, clairement. parce que suivre les visios constamment, ça a été compliqué. On a des rapports différents à la scolarité, et celui-ci, par le visio, ça a été compliqué. Après, c'est vrai qu'au niveau... Ouais, c'est d'être seul tout, constamment, et on travaille dans notre formation, on est énormément en groupe. Et notre formation, elle passe aussi par la coopération, par... si t'as un camarade a un petit souci, un petit de compréhension d'un cours, s'il a pour monter un dossier, il a du mal, et ben on était là aussi pour se soutenir. Et là, par visio, c'était beaucoup plus compliqué. Mais moi, personnellement, ce qui m'a le plus manqué, c'est l'interaction des autres. De toute façon, on apprend de tout le monde, on apprend de ses pairs, on apprend des collègues de formation, on apprend des formateurs. Et sans ces temps de groupe, sans ces temps de formation physique, et ben en effet, on peut perdre de la motivation et peut-être abandonner la formation par rapport à ça, oui.
Mais effectivement, on a des gens qui nous confient que c'est de plus en plus difficile, qui se sentent décrochés, qui n'ont pas le moral, qui ne trouvent pas le sens à la formation vraiment, alors que les efforts pédagogiques et les efforts d'adaptabilité sont faits. Mais c'est que ça ne suffit pas parce que c'est aussi le fait de ne pas se voir, de ne pas avoir de dynamique de groupe, de dynamique collective qui fait que ouais, c'est difficile pour pas mal d'étudiants, notamment dans notre promo, qui ont... un sentiment de lassitude, je pense, par rapport à la situation.
D'après toi, de quelle manière, en fait, cette situation de précarité, elle impacte concrètement la possibilité de faire aboutir tes études et ta formation?
Parce que, je veux dire, chaque personne a des besoins, et forcément, on a des coûts financiers, déjà pour s'alimenter, pour payer nos factures, machin, etc. Et en plus, quand tu as cet aspect financier, tu te dis est-ce que je vais y arriver ou pas? T'es pas dans une bonne optique pour réussir ce que tu es en train de faire, quoi. Je veux dire, si tu es dans les études ou dans une formation et que tu penses toujours merde, j'ai pas assez de thunes pour finir le mois, forcément, t'es pas dans quelque chose de bon pour réussir, quoi.
Ça bouche un peu ton avenir, quoi, cette situation-là?
Ouais, clairement, ouais. Moi, je voulais faire la passerelle. Je voulais continuer, mais 2 ans, c'est pas possible, hein. Moi, je me dis que là, finalement, c'est une formation courte, donc je me dis j'accéderai plus vite au marché de l'emploi. Donc là, je me dis c'est bien parce que je vais avoir un salaire tous les mois et je vais être tranquille, entre guillemets, je vais plus galérer. Mais du coup, ça m'empêche un peu, ouais, de voir au-delà de là maintenant ce que je fais, quoi. Je me dis que j'aurais pu continuer, mais finalement, c'est un peu chaud, quoi. Donc financièrement... c'est pas trop possible, quoi.
Ouais, ça a été compliqué parce que plus d'une fois, je me suis dit, il faut que j'arrête. Je vais tout arrêter, je vais reprendre auxiliaire de vie, même si, en plus, auxiliaire de vie, j'ai gagné 600 euros par mois. J'ai jamais gagné un SMIC, quoi, pour tout ce qu'on fait. C'est un autre sujet. Et plus d'une fois, je me suis dit, je vais arrêter, je vais aller à l'usine, je vais gagner beaucoup plus et je serai tranquille, quoi. Parce qu'en plus, moi, on a qu'une semaine de cours par mois, donc le reste du temps, j'étais chez moi et j'attendais. Je l'appelais pour des stages, j'appelais pour des boulots. Non, il n'y a rien, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Ça a été compliqué, mais là, on recommence à revenir en présentiel, donc c'est un peu plus motivant, déjà.
Est-ce que tu suis, les réponses apportées par le gouvernement sur la situation des étudiantes et étudiants?
Je suis. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que les jeunes, c'est de leur faute si le Covid se propage. Les jeunes, c'est de leur faute si ça ne va pas dans leurs études. En fait, on nous charge, j'ai l'impression... Mais nous, on est juste là et on demande juste un peu plus d'aide, un peu plus d'attention. Je veux dire, il y a quelques fêtes sauvages, machin, mais on n'est pas tous dans le même panier, quoi. Il y en a qui veulent s'en sortir et il faut arrêter. Puis au niveau des aides, on n'est pas aidés. Je vois tout ce qui est CROUS, tout ça, qui ont eu quand même des aides. Nous, ça fait faire un an et demi de Covid, on a eu seulement des aides là en début d'année. On a eu une prime de 150 euros. J'ai l'impression qu'on a un peu les oubliés sur le côté, un peu tout le temps. D'ailleurs.
Ils vivent dans la société dans laquelle on est, hein, c'est-à-dire à la fois une société du précariat salarial et en même temps ils sont des étudiants qui nécessairement sont confrontés à des difficultés terribles, hein, soit sur le plan social, économique. Et effectivement, c'est des choses qu'on découvre de plus en plus. Alors, la crise Covid est venue complètement amplifier les choses. Et il est certain que de se dire qu'on a des étudiants en formation de travail social qui eux-mêmes vivent cette précarité de manière importante, c'est plutôt paradoxal. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que c'est tous les paradoxes de notre société, hein. C'est à la fois bah, demain, que ces étudiants-là viennent en aide aux personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Et en même temps, bah, cette vulnérabilité-là, ils la vivent. Alors, c'est vrai que cette situation-là, que ce soit à la Ferthèse ou je pense dans d'autres centres de formation, elle est vraiment importante, hein, en termes de massification de la problématique, hein, chez les étudiants. Et que, bah, il nous appartient, nous aussi, en qualité d'organisme de formation, bah, d'essayer de trouver des éléments de réponse. Je pense qu'on ne peut plus penser la formation uniquement comme un espace d'apprentissage professionnel, mais c'est aussi un lieu, à mon avis, où bah, il faut considérer aussi la complexité des conditions de vie de nos apprenants.
Par rapport à la situation, comment toi, tu as pu on va dire, prendre en compte les problématiques et quels ont été les dispositifs ou les réponses qui ont pu être apportées ?
Pour les premières demandes qui ont émergé, notamment depuis une petite année, là, ça n'a pas été facile pour eux, parce qu'on s'est rendu compte que bah, être à la fois en formation de travers social et de demander de l'aide, bah, pour eux, c'est vraiment quasi mission impossible, parce qu'ils se retrouvent dans ce que tu disais tout à l'heure, un véritable paradoxe, à la fois être finalement en position d'aidant demain et en même temps solliciter de l'aide. Alors pour eux, pour certains, c'était vraiment très très difficile. Alors nous, ce qu'on a mobilisé, bah, déjà premièrement, c'est tous les réseaux territoriaux. Hein. Sur le bassin minier, il y a beaucoup de choses. Sur Avion aussi, on a sollicité nos partenaires pour faire des colis alimentaires, pour déclencher des aides d'urgence, essayer de travailler aussi avec les services du CROUS, avec les associations du territoire. Nous-mêmes aussi, on a créé une association qui s'appelle Les Amis de Mandela pour permettre aux étudiants de pouvoir étudier avec du matériel informatique correct. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que certains étudiants travaillaient, faisaient des mémoires sur des téléphones portables. Alors, on se rend compte de la difficulté d'avoir à produire un mémoire de 40 à 50 pages sur un téléphone portable, enfin voilà, avec des conditions qui sont déplorables. Donc, nous, notre manière d'envisager l'accompagnement et l'aide aux étudiants, bah, déjà, c'est d'essayer d'être... minimum à leur écoute, quoi, et d'être sensible aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Enfin, je pense que la formation professionnelle, ça dépasse très largement la sphère de l'apprentissage des codes professionnels. C'est aussi bah, considérer le fait que bah, on a des jeunes qui ont 20 ans, qui vivent en plus en pleine période de crise Covid. Il nous appartient à nous d'être sensibles à ça. Et en tout cas, pour le coup, nous, on essaye de répondre favorablement à leurs sollicitations et puis de pouvoir construire aussi avec eux des éléments de réponse, parce qu'on n'a pas tous les éléments de réponse non plus.
Globalement, est-ce que tu penses qu'il y a des réponses adéquates à la situation, aux problèmes et à la gravité de la situation dans laquelle sont les étudiantes et les étudiants ?
Bah, en tout cas, pour ce qui concerne les étudiants en formation travail social, que ce soit les éducateurs spécialisés et les moniteurs éducateurs, il y a déjà une grosse problématique, c'est la question de l'accès aux stages, parce que effectivement, tous les stages de plus de 8 semaines sont soumis aux logiques de gratification et bon nombre d'établissements qui souhaiteraient les accueillir en stage n'ont pas les fonds dédiés pour pouvoir gratifier les étudiants. La gratification, ce n'est pas des sommes énormes, hein, c'est 3,90€ de l'heure. Mais pour le coup, beaucoup d'établissements refusent des stages de plus de 8 semaines aux étudiants parce qu'elles n'ont pas les dotations suffisantes pour pouvoir gratifier ces étudiants. Donc, ça, c'est une véritable problématique. Alors, en plus qu'ils ne trouvent pas de stage, ils doivent renoncer, pour certains, à des gratifications, c'est-à-dire commencer leur apprentissage dans le monde du travail à renoncer à un droit. Alors, je trouve ça complètement aberrant, en plus pour des professionnels qui, demain, seront amenés à accompagner des personnes en difficulté dans l'accès aux droits fondamentaux. Donc, je pense que là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est effectivement le serpent qui se mord la queue. On a des contradictions, mais qui sont terribles. Alors, ça, c'est déjà, à mon avis, un élément de réponse. Je pense qu'aussi, la question des bourses, aussi, l'accès aux bourses, le fait d'avoir une régularité des versements, des bourses, pour pouvoir suivre sa formation, c'est essentiel. Parce que parfois, la bourse est, délivrée le premier du mois, ensuite, c'est le 25. Enfin, je veux dire, quand on a un loyer à payer, évidemment, il tombe à date fixe. Il faut qu'il y ait des régularités, notamment des bourses à destination des étudiants. Après aussi, que les services du CROUS puissent leur venir en aide. Mais je vois que sur les aides d'urgence, mais aussi les cellules d'accompagnement psychologique, bah, évidemment, l'ensemble des services sont complètement saturés du fait de la massification des problématiques des étudiants. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a des réponses techniques aussi. Les CMP sur la question de l'accompagnement au niveau des cellules psychologiques bah, explosent aussi de partout. Enfin, on voit très nettement les limites hein, de l'ensemble des services publics qui, en cas de crise, se retrouvent submergés de demandes et n'arrivent plus à répondre finalement aux besoins essentiels notamment de cette catégorie sociale que sont les étudiants, notamment en travail social.
Et en dehors de l'école, vis-à-vis de la situation globale des étudiantes et étudiants, parce que ça ne concerne pas que les personnes en formation ici à la Fertès, j'imagine que tu as des idées sur cette question-là.
Ouais, moi je suis assez alarmé par la manière dont on est considéré, les étudiants et les étudiantes. Il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui ont l'impression d'être les grands oubliés de la situation, qui vivent dans des logements universitaires de 9 mètres carrés. Il y a eu beaucoup de suicides ces derniers temps, ou tentatives de suicide. Les files d'attente qu'on a tous et toutes vues à la télé, qui n'en finissent pas devant les centres d'aide alimentaire. Donc oui, ça c'est des choses qui sont absolument généralisées. Et c'est ça qui fait peur, c'est que, en fait, il y avait déjà de la précarité étudiante avant, mais elle touchait les gens qui étaient les gens précaires et c'est tout. Et donc ça dérangeait beaucoup moins. Et là, actuellement, de voir que, ben, en fait, même les gens qui d'habitude sont dans une situation confortable ou moyenne, mais qui s'en sortent, là, ils sont vraiment touchés aussi. Et c'est une précarité qui est vraiment généralisée. Et donc, moi, je pense que la réponse du gouvernement, pour l'instant, elle n'est pas du tout au niveau de la situation. L'échec santé pour les consultations psy, c'est uniquement pour aller voir des psychologues et pas des psychiatres. Et c'est, je crois, l'équivalent d'une ou deux séances qui est prise en charge. Vu la situation actuelle, je pense que pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui avaient déjà des difficultés avant, ça ne suffira pas, en fait. Et on ne peut pas juste dire qu'on a fait quelque chose, parce qu'un suivi psy, ce n'est pas deux séances, ce n'est pas une séance pour dire « Ah ouais, c'est compliqué ». C'est un suivi, enfin, c'est comme ça que ça s'appelle.
Confinement et précarité chez les étudiantes et étudiants en travail social, un reportage de Micro Rebelle avec Alex Pontini, co-réalisateur du diagnostic des besoins étudiants, Clarisse, Valentine et Yacine, et Pierre Duguet, directeur de l'Affertès à Avion.